Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerrier, Eric Manirakiza avec vous. Lundi 26 septembre 2016, bienvenue dans cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Investiture demain de Ali Bongo Ondimba pour un second mandat, 4 jours après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. Et Joseph Kabila au Vatican, le souverain pontife souhaite un dialogue respectueux et inclusif en RDC Congo. Manifestation des étudiants de l'université d'Ndjamena en grève depuis 10 jours. Ils protestent contre la suppression des bourses d'études. Accord historique de paix en Colombie pour mettre fin à plus de 50 ans d'une guerre présidentielle américaine. Hillary Clinton et Donald Trump s'affrontent ce soir dans un débat télévisé, l'économie et les sports, juste après ce journal. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba sera investi pour un second septennat demain mardi, 4 jours après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la présidence de la République. Le point avec Nanit Talani.
L'investiture aura lieu au palais présidentiel du bord de mer. Elle est rendue possible grâce à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a validé l'élection d'Ali Bongo en déboutant Jinping. Loin d'accepter sa défaite, l'opposant a rejeté la décision de la Cour, la qualifiant d'inique, de déni de droit. Il continue de se proclamer le président élu. Son rejet de la décision de la Cour risque-t-il d'aboutir à une poursuite d'une crise politique au point de faire ombrage au nouveau septennat d'Ali Bongo Ondimba? Seul l'avenir nous le dira. Les observateurs de l'Union européenne ont critiqué la décision de la Cour qui, selon eux, n'a pas rectifié les évidentes anomalies constatées lors du scrutin. La France, elle, estime que cela n'a pas permis de lever tous les doutes. De leur côté, l'Union africaine, le Maroc, les Nations unies et les États-Unis ont simplement pris acte.
Nanit Talani. Le pape François a reçu aujourd'hui au Vatican Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, pour une audience préparée avant les violences meurtrières ayant secoué la RDC il y a une semaine. Jacques Aristide.
Une attention particulière a été prêtée aux sérieux défis posés par la situation politique actuelle et les récents affrontements qui se sont produits dans la capitale congolaise, précise un communiqué du Vatican. Évoquant des discussions cordiales, le Vatican souligne la nécessité pour un dialogue respectueux et inclusif en RD Congo, tout en parlant de l'urgence d'une coopération au niveau national et international face aux violences persistantes que subit la population de l'Est du pays. La contribution importante de l'Église catholique en RDC dans les domaines de l'éducation, de la santé et la réduction de la pauvreté a également été mise en exergue à l'occasion de cette visite, d'après le Saint-Siège. Le pape est apparu très concentré, très peu souriant au début de ses 20 minutes d'entretien avec le président congolais, mais l'ambiance était légèrement plus détendue à la sortie. Joseph Kabila, accompagné d'une délégation d'une douzaine de personnes, a ensuite été reçu par Mgr Paul Gallagher, le ministre des Affaires étrangères du Vatican.
Au Tchad, les étudiants de l'université de N'Djamena ont manifesté aujourd'hui pour protester contre la suppression des bourses d'études. Nous y reviendrons en magazine, juste après le journal.
Nouvelle grève des enseignants des universités publiques au Niger. Ils protestent ces étudiants. Ils exigent le paiement d'arriérés de salaire. Le mouvement est reconduit pour une semaine. Et au Maroc, Morgane, il y a un caricaturiste qui a demandé la protection de la police après avoir reçu des menaces de mort pour avoir posté le dessin lié à l'assassinat d'un écrivain jordanien dimanche.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ancien Premier ministre portugais, António Guterres, était toujours en tête lundi et des candidats pour succéder en janvier à Ban Ki-moon comme secrétaire général de l'ONU. C'est ce qu'ont indiqué des diplomates.
Premier débat présidentiel ce soir entre la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump. Ce sera l'un des points forts de la campagne à 6 semaines du scrutin du 8 novembre. Le mot d'emploi avec Tatiana Mosso.
Il pourrait battre des records d'audience jusqu'à 100 millions de personnes vu les personnalités aux antipodes de Trump et Clinton et les sondages serrés. Rendez-vous à 21h, soit 1h du matin GMT, à l'université Hofstra près de New York. Trump et Clinton seront seuls sur scène pendant 90 minutes autour de trois thèmes, la direction de l'Amérique, la prospérité et la sécurité. Le modérateur ouvrira chacun des six segments avec une question. Chaque candidat aura 2 minutes pour répondre et ils pourront ensuite rebondir sur la réponse de l'autre. Chaque thème sera discuté pendant 30 minutes. La barre est plus haute pour Hillary Clinton. Vu son expérience et sa connaissance des dossiers, elle devra montrer qu'elle est présidentiable mais aussi honnête. Quant à Donald Trump, qui se présente comme un outsider, il devra convaincre qu'il a la trempe d'un président, qu'il connaît un minimum les dossiers et sans déraper, tout en restant courtois et surtout rassurer les républicains. Les prochains débats auront lieu le 9 octobre à Saint-Louis et le 19 octobre à Las Vegas.
Et toujours aux États-Unis, plusieurs personnes ont été blessées par balle aujourd'hui dans un centre commercial de Houston. La police a neutralisé le tireur. La criminalité violente est à la hausse en 2015, selon la police fédérale américaine. Cette détérioration relative pourrait toutefois être exploitée par Donald Trump dans son débat avec Hillary Clinton.
Restons toujours aux États-Unis où ce pays va investir des dizaines de milliards de dollars dans la modernisation de leurs 400 missiles balistiques nucléaires intercontinentaux. Ils sont pourtant considérés par certains comme d'inutiles vestiges de la guerre froide. L'US Air Force prévoit de remplacer les Minuteman III à partir de 2030.
Par ailleurs, Washington a lancé aujourd'hui une offensive judiciaire contre une entreprise chinoise soupçonnée d'avoir contribué au programme nucléaire nord-coréen et déjà dans le collimateur des autorités de Pékin.
Une journée historique pour la Colombie. Un accord de paix doit être signé après 4 années de pourparlers, un demi-siècle de conflits. Peut-être la fin de la plus ancienne guerre en Amérique latine. Anastasie Toudièche.
Et c'est aujourd'hui à La Havane que les parties doivent signer l'accord de paix qui sera soumis au vote des Colombiens le 2 octobre prochain. Il a été préparé sous l'égide de Cuba, de la Norvège, du Venezuela et du Chili, avec l'appui des Nations Unies, des États-Unis et du pape François. 6 volets le composent, parmi lesquels le désarmement des quelques 7000 combattants de la guérilla et la transformation du mouvement en parti politique, processus qui seront engagés seulement en cas de succès du prochain référendum. La défense des pays pauvres est à l'origine de la naissance du mouvement rebelle en 1964. À partir des années 1980, le trafic de drogue a alimenté et aggravé le conflit. En mai 2014, les FARC ont conclu un accord avec le gouvernement du président Juan Manuel Santos pour mettre fin aux cultures illicites dans leur zone d'influence.
Le Kremlin a fustigé les déclarations inadmissibles de Washington et Londres à l'ONU. L'ambassadrice américaine Samantha Power a accusé l'armée russe de barbarie en Syrie. L'ambassadeur britannique Matthew Rycroft a pour sa part évoqué une saisine de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Les pénuries s'aggravent dans les quartiers rebelles de la métropole d'Alep sous le feu d'intenses bombardements du régime syrien et de la Russie.
En Turquie, 10 membres des forces de sécurité tués et 7 autres blessés aujourd'hui dans 2 attaques attribuées aux rebelles du PKK dans le sud-est du pays.
L'Union européenne a lancé ce lundi un plan d'aide de près de 350 millions d'euros pour les réfugiés en Turquie, essentiellement syriens, dont les bénéficiaires se verront remettre des cartes bancaires prépayées. Le commissaire européen chargé de l'aide humanitaire, Christos Stylianides, en visite à Ankara pour lancer le programme, a estimé que les cartes de débit prépayées donneraient aux réfugiés un semblant de normalité dans leur vie.
La coalition militaire arabe, intervenant sous commandement saoudien pour soutenir les forces gouvernementales au Yémen, apprenait aujourd'hui un règlement politique d'ensemble. Un dirigeant des rebelles yéménites, Houthi, proposait une simple trêve quelques heures plus tôt.
Le secrétaire américain à l'énergie, Ernest Moniz, a rejeté aujourd'hui les critiques de Téhéran qui accuse les États-Unis de ne pas respecter totalement leur part d'engagement. Monsieur Moniz est l'un des architectes de l'accord sur le nucléaire iranien.
La Russie a de nouveau accusé aujourd'hui l'armée ukrainienne d'être responsable du crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines en 2014 dans l'est de l'Ukraine. Les premiers résultats de l'enquête pénale internationale sur le drame seront publiés dans 2 jours.
La perspective d'un divorce sans compromis entre Londres et l'Union européenne ou Brexit dur monte au Royaume-Uni, promettant des complications pour les milieux d'affaires, mais aussi pour les citoyens ordinaires.
En Espagne, l'ex-patron du Fonds monétaire international, Rodrigo Rato, a comparu aujourd'hui pour la première fois devant un tribunal. Il est présumé responsable d'un système corrompu de détournement de fonds. Le procès concerne 12 millions d'euros détournés entre 2003 et 2012.
Au Brésil, un ancien ministre des Finances des présidents Luiz Inácio Lula da Silva et Dilma Rousseff ont été arrêtés aujourd'hui. Antonio Palocci est poursuivi dans le cadre de l'enquête sur le scandale politico-financier de Petrobras.
Au Venezuela, l'opposition a appelé aujourd'hui à une nouvelle manifestation le 12 octobre afin d'exiger que le référendum pour évoquer le président socialiste Nicolas Maduro soit organisé avant la fin de l'année, unique possibilité de déclencher des élections anticipées.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le département d'État américain au commerce a qualifié de succès remarquable le deuxième forum des affaires États-Unis-Afrique qui a permis de mobiliser plus de 9 milliards de dollars. L'administration Obama a signé un accord de coopération avec l'Afrique de l'Est, renforcé l'AGOA, lancé Power Africa et des projets notamment avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Réunion de l'OPEP mercredi à Alger pour convenir de la nécessité d'une stabilisation du marché. Le secrétaire général nigérian Mohamed Barkindo a déclaré que la réunion en marge du Forum international de l'énergie sera une simple rencontre de concertation. La Libye et le Nigeria sont réticents à une limitation de la production. Tripoli vient d'ailleurs de reprendre ses exportations de pétrole. Et les pays africains auront besoin de données, de statistiques et de processus de coordination des politiques améliorées pour assurer le succès de la mise en œuvre des objectifs de développement durable et la convergence avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est la conclusion d'un panel en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.
Merci Nathalie.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Ennui judiciaire pour Serge Aurier.
Le joueur ivoirien du Paris Saint-Germain a été condamné à 2 mois de prison ferme pour des violences lors d'une altercation le 30 mai dernier avec des policiers à Paris à la sortie d'une boîte de nuit. Le défenseur de 23 ans a aussitôt fait appel de cette condamnation. On rappelle que cette condamnation n'est pas assortie d'un mandat de dépôt. Le joueur pourra donc disputer le prochain match du Paris Saint-Germain. Ce sera ce mercredi en Ligue des Champions sur la pelouse du club bulgare de Ludogorets.
Et 10e finale en compétition africaine pour le TP Mazembe.
Le tout-puissant Mazembe Les Corbeaux qui élimine l'étoile sportive du Sahel en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Les Congolais et les Tunisiens se sont quittés sur un match nul 0-0 au stade Kamalondo à Lubumbashi. Mais ce résultat est suffisant, Morgan. Grâce au match nul 1-1 obtenu à l'aller en Tunisie, les Congolais affronteront le Mouloudia Olympique de Béjaïa en finale. On rappelle que les deux équipes étaient en phase de poule ensemble. Bilan 1 victoire pour les Congolais et 1 nul.
La Ligue des Champions en Europe demain.
L'affiche de cette journée, c'est Dortmund contre le Real Madrid. À suivre également Sporting de Lisbonne contre le Legia Varsovie, Monaco contre le Bayer Leverkusen, le CSKA Moscou contre Tottenham, Leicester, champion anglais en titre, accueille Porto, Copenhague contre Bruges. Les deux clubs doivent surtout penser à l'Europa League. Et en l'absence de son buteur vedette, Alexandre Lacazette, Lyon se déplace à Séville. La Juve poste Pogba qui doit se relancer à Zagreb face au Dynamo.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Diayek et Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour.
Les étudiants de N'Djamena ont manifesté ce lundi pour protester contre la suppression des bourses d'études. La tension est montée, il y a eu des débordements lorsqu'ils ont appris le report s'inédier de la rencontre prévue ce matin avec le Premier ministre. Une dizaine d'entre eux ont été arrêtés, a dit à Nathalie Barge, le président de l'Union nationale des étudiants tchadiens, Barka le roi Manamon Makinsam.
Nous étions conviés à une audience avec le Premier ministre sur la question de la suppression de la bourse des étudiants. Et une fois arrivés dans la salle de la réunion, quelques minutes après, son protocole nous fait croire que le Premier ministre a été convié à une autre rencontre d'urgence et il ne sait pas à quelle heure il va finir. Donc l'audience avec l'UNED est reportée, n'est-ce pas, à une date ultérieure. Et alors qu'avant que nous n'allions, n'est-ce pas, à la rencontre, les étudiants étaient déjà mobilisés, n'est-ce pas, dans l'enceinte de la faculté d'Arédjomba. À notre retour, sous l'emprise de la colère, et les étudiants se sont mis, n'est-ce pas, dans les différents quartiers de la ville de N'Djamena. Il y a eu quelques débordements. Il y a aussi eu des débordements dans les provinces. Il y a eu des arrestations. Nous avions reçu le message de ceux qui sont arrêtés. Il y a quand même une dizaine qui sont arrêtés. La police a déployé un dispositif énorme et même les chiens policiers ne sont pas restés dans leur caserne. Partout, il y avait la police qui pourchassait les étudiants dans les quartiers et nos locaux aussi ont été encerclés par la police. Le préavis étant expiré, la rencontre n'ayant pas eu lieu, les étudiants ont pour leur part estimé que ce n'est pas un mépris, c'est un manque de volonté. Et donc, l'UNED ne pouvant pas contenir les étudiants sont partis et il y a eu quelques débordements. Et nous déclinons, n'est-ce pas, toute responsabilité. Il y a des conséquences graves en ce qui concerne, n'est-ce pas, la détermination de l'étudiant aujourd'hui pour demander la levée de cette mesure.
Est-ce que vous faites cependant des appels à manifester dans le calme ?
Tout à fait. Aujourd'hui, même au sortir de la primature, nous avions introduit auprès du ministère de l'Intérieur une demande d'une marche pacifique que nous comptons organiser le mercredi sur tout l'étendue du territoire pour demander que nos revendications puissent, n'est-ce pas, être prises en compte. Dans les universités, les étudiants ne sont pas logés. Aujourd'hui, avec cette maigre somme de 30 000, beaucoup des étudiants se prennent en charge. La bourse constitue, n'est-ce pas, le pilier de leur étude.
Est-ce que les cours vont reprendre ou est-ce que cela continue finalement? Tout est bloqué au niveau université, au niveau de l'école publique hein.
Tout est bloqué parce qu'il faut reconnaître qu'en plus de la contestation qui concerne cette mesure, il y a aujourd'hui la grève des enseignants qui a perduré plus de 5 mois. Et donc une autre situation vient s'ajouter. Et si ces situations ne sont pas résolues, ça ne va pas être facile que nous puissions achever cette année qui est devenue très élastique et lancer une autre année.
C'était Barka, le roi Manamon Makissa, président de l'Union nationale des étudiants tchadiens, joint à N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Et nous partons maintenant au Burundi. La rentrée scolaire du primaire et du secondaire s'est ouverte avec pour objectif d'améliorer la qualité et les performances du système éducatif, avec la création notamment d'écoles d'excellence. Pendant ce temps, plus de 80 000 élèves du secondaire qui n'ont pas réussi leur test national sont laissés de côté. Christophe Murundiza, notre correspondant à Bujumbura, a sillonné les écoles de la capitale.
10 heures à l'école primaire du bassin 2 au centre-ville de la capitale. Des enfants en uniforme kaki jouent pendant la récréation. Des parents sont au tableau d'affichage pour connaître la nouvelle classe de leurs enfants. Après la récréation, les élèves accueillent une journaliste venue s'enquérir de leurs nouvelles. La directrice de l'établissement annonce qu'une nouvelle année a débuté avec des défis importants. Régine Chimpaye.
Nous sommes prêts à accueillir un effectif d'élèves, 1262 élèves. Nous sommes prêts à les accueillir, à les mettre dans les différentes classes.
Pas de problème matériel, de bouquins.
Avec le redéploiement, on m'a pris 4 enseignants. C'est beaucoup pour moi. Il n'y aura pas de suppléant en cas de grossesse d'une enseignante. Le matériel, nous avons le bouquet d'élèves, sont insuffisants, ils sont déchirés. Français 5e, ils sont un peu usés. On peut nous donner d'autres livres de 5e, français 5e.
Cette année scolaire 2016-2017 commence avec de nombreuses réformes, comme celles relatives à la création des écoles d'excellence qui vont résorber les pénuries en cadre d'entreprises dotées de tangibles compétences. Mais plus de 80 000 élèves âgés de 13 à 17 ans qui ont échoué aux thèses de 9e et 10e année fondamentale n'ont pas où étudier, mais la ministre de l'enseignement secondaire ne revient pas en arrière. Janvier Ndiraïcha.
Quant à ceux qui sont en dessous de ce score de 90 points, ils pourront venir s'essayer de nouveau au concours de 2017 en qualité d'autodidacte. Mais puisqu'ils n'ont pas réussi au concours, ça veut dire que soit ils feront le métier et après aussi revenir faire le concours, s'ils veulent.
Mais pour le syndicaliste Emmanuel Machandari, l'avenir de ces centaines de milliers d'enfants brondés s'annonce très sombre.
On propose que les enfants restent à la maison, quitte à ce qu'ils reviennent repasser le concours à la fin de l'année. Ça devient pratiquement impossible. Un enfant de la 9e ou de la 10e, il est encore très petit. Il ne sait pas s'encadrer. Il ne peut passer toute une année à la maison sans rien faire et lui demander de venir passer le concours. Et nous avons déjà constaté que le taux de réussite est très bas.
Nouvelle année scolaire débute avec beaucoup de réformes, certes, mais elle se heurte également à beaucoup de réticences. Que vont faire ces enfants brondés pendant une année, s'interrogent leurs parents. Quel sera leur avenir, des questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le président français François Hollande, en déplacement à Calais, a confirmé le démantèlement de la jungle. Dans cet immense bidonville, s'entassent entre 7 000 et 10 000 migrants qui espèrent traverser la Manche pour se rendre au Royaume-Uni. Pour les détails, Claire Morin-Gibourg a joint Franck Esné, le chef de mission de Médecins sans frontières à Calais.
La première chose qui est sortie de cette réunion, c'est la confirmation d'un démantèlement total de la jungle de Calais en une seule fois. C'est-à-dire qu'on va démolir effectivement et raser tout ce qui participe des abris et potentiellement aussi ce qu'on appelait le CAP, le centre d'accueil provisoire, c'est le camp de containers qui était sur la jungle. Le président de la République a entendu nos inquiétudes par rapport aux mineurs isolés, aux patients, aux personnes hospitalisées et aux personnes les plus vulnérables qui avaient besoin d'un accueil ou de dispositifs particuliers. Il a entendu cette question. Il nous a rassurés sur le fait que l'État ferait le maximum pour tenir compte de ces particularités, de ces vulnérabilités-là. Le président nous a rassurés aussi sur la question de la réunification familiale avec le Royaume-Uni pour quelques 200 mineurs qui sont éligibles à la réunification familiale. Des informations importantes qui sont confirmées. Et effectivement, le démantèlement est imminent, donc on imagine au mois d'octobre.
Mais est-ce que c'est réaliste de fermer, de démanteler la jungle avant la fin de l'année pour vous en tant que professionnel ?
Malheureusement, je pense que ça n'est pas du tout la question du chef de l'État. C'est-à-dire que, réaliste ou pas, je pense qu'il y a un agenda électoral qui impose le fait d'agir vite. On sait que les habitants de Calais, les Calaisiens, les Calaisiennes, sont épuisés par cette situation qui est insupportable. Hein. C'est insupportable de vivre dans une ville qui accueille le plus grand bidonville de France. Voilà. Réaliste, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire rapidement. Et c'est possible de le faire bien. Est-ce que le gouvernement va tout mettre en œuvre pour que ça se passe le mieux possible ? C'est là où on a des doutes. Il n'y a pas forcément encore toutes les places en centre d'accueil et d'orientation sur l'ensemble du territoire français pour accueillir 9000 personnes. Les 1000 mineurs isolés qui sont recensés sur la jungle, les dispositifs d'État, la protection de l'État, il n'y a pas suffisamment de place et les dispositifs ne sont pas suffisamment fluides pour accueillir ces 1000 mineurs. Donc on peut douter effectivement du réalisme de la proposition. Néanmoins, ne doutons pas, ça va se faire très vite.
Voilà, c'était Franck Esnée, chef de mission de Médecins sans frontières à Calais.
Votre chronique sur la présidentielle américaine avec Salwa Jafari. Bonsoir Salwa.
Bonsoir Eric, bonsoir Morgane.
Oui, premier débat télévisé ce soir, Hillary Clinton contre Donald Trump, un débat très attendu par des millions d'Américains.
Et oui, c'est le jour J. Ce soir, à 1h, temps universel, les projecteurs seront braqués sur le premier face-à-face entre Hillary Clinton et Donald Trump. C'est en quelque sorte le Super Bowl politique à 6 semaines des élections. Je dis Super Bowl parce que ça promet d'être très divertissant, étant donné le degré d'animosité qui existe entre les deux candidats. Au-delà de l'aspect récréatif, n'oublions pas que ce débat est une affaire sérieuse. Ces débats sont la meilleure chance pour les candidats de convaincre et ils ont du pain sur la planche.
Plusieurs pains sur la même planche. Des détails sur le débat ?
Le débat se tiendra au sein de l'université Hofstra, près de New York. Les deux candidats s'affronteront pendant 90 minutes, sans aucune pause publicitaire, contrairement au Super Bowl. Les trois axes ont été annoncés, le futur de l'Amérique, la prospérité et la sécurité. Le modérateur posera deux grandes questions par thème, ouvrant les séquences de 15 minutes chacune. Les candidats devront se soumettre à des règles strictes. Ils n'auront que 2 minutes pour répondre à la première question, puis pourront échanger librement. On le sait, les candidats ont passé des mois à se préparer, écoutant quelques réactions recueillies à quelques heures de ce duel. Et on commence avec l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, suivi du président de la Chambre des représentants, Paul Ryan.
Oui, je pense que si le débat portera sur le contraste de leurs idées, le développement contre la dépendance, une Amérique forte contre une Amérique faible, je pense que Donald Trump va très bien se débrouiller.
Hillary Clinton a fait ça durant toute sa vie, c'est une pro. Tout cela est nouveau pour Donald Trump, donc je pense qu'il devrait évidemment se préparer.
En fait, le débat, c'est comme un entretien d'embauche. Et pour tout entretien d'embauche, il faut vanter ses qualités et surtout masquer ses défauts. Les défauts de Trump, selon ses détracteurs, son impulsivité et puis tous ses discours, ses tweets ou autres qui ont fait polémique.
Number one, are you ready? Are you ready? We will build a great wall along the southern...
Alors on vient d'entendre l'un des discours les plus controversés de Trump, où il annonçait qu'il allait construire un mur tout au long de la frontière avec le Mexique. Le candidat républicain devra prouver qu'il a l'étoffe et la sagesse d'un président. Hillary, elle, a de l'expérience, son CV fait plusieurs pages. Elle doit néanmoins résoudre le problème de confiance. Beaucoup d'électeurs ont du mal à la croire. En attendant d'elle qu'elle profite des faux pas de son adversaire et qu'elle lui tente des pièges pour faire ressortir sa vraie nature. En tout cas, près de 100 millions d'Américains seront rivés ce soir devant le petit écran pour suivre la première d'une série de 3 débats présidentiels.
Oui, et Donald Trump qui a menacé de convier au débat une ancienne maîtresse de Bill Clinton, l'ancien président américain, et le mari de la nouvelle candidate démocrate, n'est-ce pas ? Voilà, vous aurez à suivre tous les détails sur notre site internet avec Salwa Jafari.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition. Michel Joseph a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Joe Gill à la console. Présentation Morgane Guiriec, Eric Manirakidza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook, plus d'1 700 000. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA